Alors, bonjour à tous. Votre Excellence, Monsieur Lafont, Madame Bissonnette, présidente, directrice générale de la Bibliothèque nationale, Madame Gauvin, présidente de notre Académie, Mesdames et Messieurs qui représentaient ici le Consulat de France, distingués membres du jury du Prix des cinq continents, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je suis très très heureux, il n'y a pas de mots pour le dire, de vous accueillir si nombreux à l'occasion de ce 26e colloque annuel de notre Académie. Mon nom est Georges Leroux, je suis le vice-président de cette Académie et j'aurai le plaisir et l'honneur d'être votre animateur au cours de cette journée qui s'annonce déjà très riche. Je veux d'abord souhaiter la bienvenue à nos invités et collègues venus parfois de loin pour célébrer avec nous la francophonie dont le sommet s'ouvre ce soir à Québec et la littérature de langue française. Je suis particulièrement heureux d'accueillir les membres du jury du Prix des cinq continents et de saluer parmi eux M. Le Clézio qui a accepté si généreusement de prononcer la conférence d'ouverture de notre colloque. L'Académie est par ailleurs très reconnaissante à la Bibliothèque et Archives nationales de son hospitalité, une hospitalité qui ne se dément pas, une générosité très amicale. C'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons en ce lieu de lecture et d'écriture, tous ensemble ce matin. Vous avez reçu à l'entrée un programme de la journée. Pour la séance de ce matin, nous écouterons d'abord M. Le Clézio. Sa conférence sera suivie d'une brève période de questions, après quoi nous ferons une brève pause, le temps d'un café, et nous reprendrons pour notre première table ronde. Je vous reviendrai, bien sûr, pour la suite de l'horaire, le déroulement des activités de l'après-midi. Mais comme on dit parfois à la télévision, restez avec nous. Je donne maintenant la parole à notre présidente, Madame Gauvin, une grande pionnière, vous le savez, de la francophonie littéraire, en particulier ici au Québec. Elle va donc nous proposer quelques réflexions sur le sujet et surtout nous présenter notre conférencier, M. Jean-Marie Le Clézio. Madame Gauvin.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de préciser tout d'abord que ce colloque, s'il coïncide avec la tenue du sommet de la francophonie, ne lui est pas directement relié. Il a comme objectif de réfléchir au sort des littératures de langue française dans notre époque, qu'on dit être celle de la mondialisation, et d'interroger ce qu'il faut bien désigner comme le malentendu francophone. Depuis le Salon du Livre de Paris en 2006, consacré aux littératures francophones, plusieurs questions se posent et sont discutées sur la place publique. La première, gênante parce que récurrente et toujours irrésolue, que recouvre au juste la notion de francophonie? Une étiquette commode servant à regrouper les anciennes colonies françaises? Une manière de désigner les locuteurs français hors de France tout en les marginalisant? Une façon pour l'État français d'assurer sa présence au sein d'organismes internationaux? Quoi qu'il en soit, dès que l'on tente de préciser le sens du mot, il y a toujours un reste, c'est-à-dire des exceptions, des éléments qui ne cadrent pas avec la définition. Par ailleurs, il nous faut hélas constater que dans l'esprit des Français, l'image de la francophonie reste encore liée au contexte de la colonisation et plus particulièrement à l'Afrique. Les écrivains eux-mêmes ont été les premiers à signaler les dangers d'exclusion qui les menacent et à revendiquer une appartenance entière à la littérature française, ou plutôt à une littérature francophone dont la littérature française serait l'une des composantes. Telle était en 2006 la position d'Alain Mabankou. Telle est aussi, à peu de choses près, le statut que souhaite un Tahar Benjelloun, qui se dit un écrivain français d'origine marocaine. On peut jouer sur les mots. Il n'en reste pas moins que l'appellation francophone, si elle permet de donner une certaine visibilité aux productions littéraires dites de la périphérie, ne saurait être une frontière ou un cadre fermé. Les écrivains, sans doute est-il nécessaire de le rappeler, sont écrivains avant d'être francophones, allophones, migrants, postcoloniaux ou quoi que ce soit d'autre. Le malaise s'est exprimé de nouveau au printemps 2007 avec la publication du manifeste pour une littérature monde dans le journal Le Monde du 16 mars, et on y sonnait le glas de la francophonie entendue comme le dernier avatar du colonialisme français. Et on annonçait l'avènement d'une littérature monde en français dont le centre est désormais partout aux quatre coins du monde. Co-rédigé par Jean Rouault et par Michel Lebris, co-signé par 44 écrivains, parmi lesquels au Québec Jacques Godbout, Wajdi Mouawa, Dany Laferrière, et en France Jean-Marie Gustave Le Clézio, ce manifeste mettait en évidence l'ambiguïté que recouvre le terme de francophonie lorsqu'il s'agit d'appliquer à la littérature un concept de nature d'abord politique. Alors qu'au printemps 2006, des écrivains francophones se disaient marginalisés dans l'institution littéraire française, bien que publiés par des maisons d'édition parisiennes, les prix littéraires de l'automne semblaient avoir changé les choses puisque 5 sur 7 de ces prix avaient été attribués à des auteurs venus d'ailleurs. D'où la nécessité pour plusieurs écrivains de recomposer avec des notions plus englobantes la scène de l'écriture en français. On ne peut qu'applaudir à ce souci de décloisonnement et de relations égalitaires entre les diverses littératures de langue française dont on souligne à juste titre l'effervescence romanesque. On ne peut qu'être d'accord avec les auteurs du manifeste pour dire que Régent Ducharme est un des plus grands romanciers contemporains. Qu'être d'accord également avec ce concept de littérature monde qui fait écho au tout monde cher à Édouard Glissant et qui permet de regrouper le vaste ensemble de l'écriture en français, signalant par le fait même l'autonomisation de la langue et du littéraire. Mais quelques questions soulevées par le manifeste restent en suspens, auquel l'ouvrage collectif rédigé par 27 écrivains apporte des éléments de réponse, mais suscite également de nouvelles interrogations. Du côté des co-directeurs d'abord, Michel Lebris précise que l'acte de décès constaté dans le manifeste est celui d'une certaine idée de la francophonie, perçue comme un espace sur lequel la France dispenserait ses lumières au bénéfice des masses encore enténébrées. Ne s'agit-il pas là d'une conception franco-centriste de la francophonie contre laquelle le Québec s'est élevé depuis longtemps? Cette francophonie-là, nous préférons la laisser aux politiciens français et à leur culpabilité plus ou moins avouée devant les avatars de la colonisation. Remplacer la notion de littérature francophone par celle de littérature monde en français, n'est-ce pas, comme le suggérait Alexandre Najar dans les pages du Monde, expliquer l'eau par l'eau? On comprend le scepticisme d'un Jacques Godbout qui croit que pour changer la donne, Paris doit modifier son appareil éditorial et critique. Je cite, « Il ne s'agit pas de créer une mode francophone, il s'agit de changer la culture de l'institution littéraire en France. » Et de changer également, ajouterais-je, les modalités de circulation du livre dans l'espace francophone. Comment donc désigner les littératures francophones sans les marginaliser et d'une certaine façon les exclure? Comment par contre ne pas constater le statut particulier de ces littératures qu'on a du mal à nommer? Littérature mineure, minoritaire, petite littérature, tour à tour ces désignations ont été choisies pour décrire des systèmes littéraires à la fois autonomes et interdépendants. Les écrivains qui en font partie ont en commun de se situer à la croisée des langues, dans un contexte de relations conflictuelles ou tout au moins concurrentielles entre le français et d'autres langues de proximité. Ce qui engendre chez eux une sensibilité plus grande à la problématique des langues, soit une surconscience linguistique qui fait de la langue un lieu de réflexion privilégié, un espace de fiction, voire de friction. Les écrivains francophones ont aussi en commun le fait de s'adresser à divers publics, séparés par des acquis culturels et langagiers différents, ce qui les oblige à trouver les stratégies aptes à rendre compte de leur communauté d'origine, tout en leur permettant d'atteindre un plus vaste lectorat. Stratégies qui permettent de pratiquer une véritable esthétique du divers, selon l'expression de Ségalène reprise par Glissant, sans tomber dans le marquage régionaliste ou exotisant. Ainsi, la littérature francophone fonctionne-t-elle selon une double forme d'institutionnalisation, celle qui les relie à l'espace d'origine et celle qui les rapproche du champ littéraire hexagonal, dont elle constitue parfois une sorte d'avant-garde tumultueuse. Et à ce titre, elles font partie d'un ensemble beaucoup plus vaste constitué par les littératures de langue française. Mais avant toute chose, et peut-être faudrait-il insister sur ce point, la notion de littérature monde en français ne saurait faire abstraction du sort réservé à la langue française elle-même à l'époque du virtuel et du global. Elle ne saurait faire l'économie également des spécificités des littératures dites francophones par rapport à la littérature franco-française. N'y a-t-il pas lieu de craindre qu'elle ne soit parfois un avatar déguisé de cette idée d'universel dont on sait qu'elle a trop longtemps été un concept proposé par les cultures dominantes pour assurer leur hégémonie? À mon sens, il y aura une véritable littérature monde en français lorsque des liens seront créés d'une littérature à une autre sans passer par quelque centre que ce soit. Cela est encore à venir. Alors, comment les écrivains se situent-ils dans le contexte de la francophonie? Quel type de lien peut-on établir entre les diverses aires francophones? Dans quelle mesure les œuvres contemporaines sont-elles tributaires des proportions formelles, des propositions formelles fournies par les écrivains non hexagonaux? Peut-on parler d'un héritage commun et d'une information réciproque? Quelles configurations sont privilégiées? Toutes questions qui seront abordées au cours de ce colloque, alors que des écrivains s'interrogeront sur le concept de littérature monde et témoigneront de leur rapport avec d'autres écrivains et d'autres œuvres de langue française. Alors, je remercie tout particulièrement la présidente directrice générale de la Grande Bibliothèque, Mme Lise Bissonnette, de son soutien pour l'organisation de cette journée. Je salue également les membres du jury du Prix des Cinq Continents présents dans cette salle, ainsi que son Excellence M. Jean-Daniel Lafont. Et pour donner la conférence inaugurale de ce colloque, j'ai l'immense honneur d'accueillir, au nom de l'Académie des Lettres du Québec, un écrivain à qui l'illustre Académie de Suède vient de décerner son prix Nobel, la plus prestigieuse récompense littéraire. Monsieur Le Clézio, permettez-moi de vous dire d'abord à quel point nous vous sommes reconnaissants d'avoir respecté vos engagements antérieurs et d'avoir trouvé le temps de venir au Québec malgré les pressions qui, depuis le 9 octobre, doivent vous venir de toutes parts. Mais telle est bien là l'une des constantes de votre parcours qui vous a permis d'être le témoin de votre temps tout en gardant une certaine distance avec l'agitation médiatique et les sollicitations de l'actualité. On pourrait dire de vous, en reprenant une expression de René de Pestre, que vous êtes un nomade enraciné, sachant articuler votre histoire familiale à l'aventure des peuples et des civilisations. De vos longs séjours au Mexique, en Afrique et ailleurs, vous ramenez des livres qui sont autant de questions sur le sens de l'art et de la culture. N'est-ce pas d'ailleurs ainsi que vous concevez le roman, que vous décrivez comme la meilleure manière d'interroger le monde actuel? C'est cette pensée en mouvement, cette inquiétude toujours à l'affût, mais aussi cette attention aux marges et aux laissés pour compte de la société que nous apprécions tout particulièrement dans vos livres. Vos origines mauriciennes vous ont permis d'être sensible à la situation des écrivains francophones qui, comme vous, sont confrontés à des expériences linguistiques complexes. Écrivain de langue française, vous n'hésitez pas à affirmer que le français peut être votre véritable pays et à militer pour la présence du français dans le monde. Votre parcours est un exemple éloquent de la nécessité de revoir certaines frontières artificielles établies entre français et francophones. Votre engagement au Prix des Cinq Continents est aussi une preuve de cette disponibilité qui est la vôtre pour les œuvres venues des divers lieux où on parle et écrit le français. Mais je m'en voudrais de ne pas souligner, en terminant cette brève présentation, vos qualités de lecteur et d'éditeur qui vous ont permis de reconnaître et de soutenir l'œuvre de Régent Ducharme, ce romancier québécois que vous avez également honoré de votre amitié. Dans votre dernier roman, Ritournelle de la fin, vous revenez au point de départ de votre itinéraire d'écrivain, comparant le rapport que vous aviez enfant avec le pain à celui de l'écrivain avec la page blanche. J'ajoute qu'à la fin de ce roman, vous envoyez vos personnages venir s'installer au Canada. Donc, une cinquantaine de livres plus tard, et après ce premier rapport de l'enfant avec le pain, cette comparaison avec la page blanche, donc après la consécration du Renaudot à 23 ans et celle du Nobel aujourd'hui, nous ne pouvons que vous souhaiter de mettre à profit encore dans plusieurs livres cette fragilité que vous donnez comme constituante de la démarche de l'écrivain et qui donne à votre œuvre sa tonalité particulière, cette musique des mots inspirée par l'archipel du monde. Alors c'est avec grand plaisir que nous vous entendrons maintenant nous faire part de vos réflexions sur la situation du français et des littératures de langue française à l'heure de la mondialisation. Monsieur Le Clézot.
Je remercie Madame Lise Gauvin et je remercie tous les organisateurs de cette rencontre, Madame Lise Bissonnette en particulier. C'est un moment très émouvant pour moi. Je viens assez souvent au Canada. Je suis venu depuis maintenant plus d'une décennie avec régularité au Canada. J'ai enseigné à Vancouver et j'ai également passé de longs séjours au Québec. Et je suis vraiment très touché de cette invitation et de cette occasion de revoir des amis et aussi de faire de nouvelles connaissances. La dernière fois que j'étais au Québec, c'était à l'occasion de Assiniboine, qui était une rencontre des peuples autochtones qui se tenait ici à Montréal. Et j'ai rencontré beaucoup de gens très intéressants et ça a été, je me souviens, de moments très émouvants. Donc, merci à tous de cette invitation. Et j'espère revenir très longtemps encore au Québec et au Canada. Les réflexions dont je vais vous faire part sont des réflexions très personnelles. Elles n'engagent que moi. Mais je tenais à vous en faire part. Puisqu'on m'a demandé de m'exprimer au sujet de la mondialisation, permettez-moi de partager avec vous quelques souvenirs personnels. En fait, deux souvenirs. Le premier souvenir concerne ma petite enfance. Cela se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai alors 5 ans. La France vient d'être libérée par les Anglais, les Américains et les Canadiens. Je suis trop jeune pour comprendre ce que cela signifie. La Deuxième Guerre mondiale vient de s'achever. Dans le petit village de montagne où ma mère, ma grand-mère et moi-même sommes réfugiés, puisque nous étions citoyens britanniques, nous devions nous cacher, nous sommes réfugiés depuis l'hiver 43, quand l'armée allemande a commencé sa progression dans les Alpes. Nous avons trouvé refuge dans ce petit village de Roquebillière. Ce village a vécu ces dernières années de la guerre dans un état de presque d'autarcie, de parfait isolement. Toutes les routes sont coupées. Il n'y a aucune communication avec le monde extérieur. Mon frère et moi, nous sommes vêtus de peau de mouton. Nous sommes chaussés de galoches en bois. Nos cheveux sont coupés au bol. Nous sommes des petits sauvages. Et l'armée des vainqueurs ne change pas grand-chose à la situation de ce village de Roquebillière. Ça ne change pas grand-chose non plus à notre vie. Je me souviens surtout de cet été qui a été le dernier été de la guerre. Cet été est absolument éblouissant. Les hommes ont été libérés des camps de prisonniers, sont revenus dans la montagne. Et avec eux, nous faisons la moisson de blé dans la vallée. J'ai 5 ans, donc la moisson, ça se réduit en réalité à marcher dans les sillons avec ma grand-mère et à ramasser, à glaner, ramasser les épis de blé qui sont tombés par terre. Ma grand-mère les ramasse pour ensuite broyer les grains de blé dans son moulin à café et faire de la farine, parce que nous manquons absolument de tout. Comme au temps les plus anciens, les hommes fauchent en rang, armés de longues faux. Les épis sont ensuite battus sur l'arrière. Ils sont passés sous des traîneaux en bois incrustés de silex. Le soleil brûle, la poussière de blé monte dans l'air, fait tousser. Il y a partout des enfants et des femmes, occupés comme nous à ramasser chaque grain tombé au sol. C'est une impression de force, de vie, que je n'ai jamais plus ressentie de cette façon. La guerre mondiale est en train de prendre fin, du moins dans cette partie du monde, puisque les bombardements n'ont pas encore eu lieu sur Nagasaki et Hiroshima. La guerre est presque terminée, et dans cette vallée de montagne, à moins d'une heure de la splendide ville de Nice et de la Méditerranée, la mondialisation n'a pas encore commencé. On fauche comme au Moyen-Âge, et on bat le blé comme au Moyen-Âge. Mon deuxième souvenir touche aux années de ma jeunesse. Je n'ai pas encore 20 ans, et comme chaque été, je prends le bateau pour traverser la Manche vers l'Angleterre. Soudain, cette année-là, le pont du ferry est envahi de gens étranges et étrangers que je reconnais pour être de ceux auprès de qui j'ai passé 2 ans dans mon enfance, après la guerre. Des Noirs venus de l'Afrique de l'Ouest, des Gans, des Nigérians, des Camerounais. Il fait très froid sur la Manche. Le vent et la pluie balayent le pont. Les Africains sont arrivés sur des cargos à Marseille. Ils ont pris le train pour traverser toute la France et ils se rendent en Angleterre pour travailler dans les chantiers et dans les usines. Ils sont vêtus de leurs habits traditionnels, de longues robes bleu ciel. Mon père a rapporté du Nigeria des chemises de ce même tissu achetées au Haoussa. Ils portent des tatouages, des scarifications sur leur visage. Ils sont coiffés de bonnets en peau de léopard. Ils ressemblent à des guerriers, mais ils ne sont que des travailleurs que l'Angleterre, en mal de main-d'œuvre, fait venir en quantité. On ne parle pas encore d'immigrés. On ne parle pas de seuil de tolérance, d'intégration, de communautarisme. Sur le pont, ils sont transis de froid. Il n'y a pas de place pour eux dans les salons, ou peut-être n'osent-ils pas y entrer. Ils ne parlent pas anglais. J'essaye en vain de leur parler en pidgin, de leur dire mes souvenirs de là-bas. Ils me regardent avec méfiance, ils détournent le visage. Sans doute ont-ils peur. Le chapitre moderne de la grande migration économique vient de commencer, et pourtant personne ne parle encore de mondialisation. Dans quelques années, quelques mois, la plupart des pays d'Afrique seront indépendants. La dernière guerre coloniale de la France va commencer en Algérie. J'ai voulu évoquer pour vous ces anciens souvenirs, parce que dans mon esprit, ils sont liés à la place, selon moi, de la langue française dans le concert universel des langues. Ils sont liés à la colonisation et à la guerre. L'histoire des langues n'est pas moins injuste, ni moins imprévisible que celle des peuples. L'écrasante domination des unes signifie l'affaiblissement, voire la disparition des autres, sans que rien ne puisse justifier un tel état de fait. De la demi-douzaine de langues européennes qui ont pris part à l'expansion coloniale, seules 3 ont réussi à conserver leur rôle de langue universelle, parlée, écrite sur la quasi-totalité de notre planète. Si l'on considère l'importance géographique et démographique des 3 pays d'où émanent ces langues, on reste confondu par le paradoxe. L'anglais, à l'époque de Drake et de Sir Walter Raleigh, est parlé par une population d'à peine 10 millions d'individus, dans un petit royaume insulaire sans ressources, grand comme Taïwan ou Bornéo. C'est une langue bâtarde, faite d'un mélange de breton, de saxon et de normand, à la prononciation incertaine, à l'orthographe aberrante. Mais c'est la langue de Goldoni et de Shakespeare. L'espagnol, au temps de Cristobal Colón, est émietté en dialecte et se dégage à peine de la gangue arabe. C'est plutôt la langue de l'Inquisition que celle de Cervantes. Quant au français, il n'est pas beaucoup mieux loti. On le parle à la cour à Paris, mais déjà à Melun, à Châlons, on ne le comprend plus. En France, on parle le breton, le gascon, le provençal. La sœur de François Ier règne sur un petit royaume où l'on parle le basque. À Lunéville, la patrie de peintre Georges de Latour, on entend le lorrain, mélange de français et de bas-allemand, qui doit être sans doute la langue dans laquelle les anges s'adressèrent à Jeanne d'Arc. Marie de France, une de nos grandes poétesses, peut lire sans peine ses poèmes à la cour du roi d'Angleterre, puisqu'elle écrit en anglo-normand, le patois qu'on parle encore dans l'île de Jersey. Que s'est-il passé pour que ces 3 langues recouvrent le monde et deviennent l'outil de communication d'une grande partie de l'humanité? Était-elle supérieure aux autres? Peut-on croire qu'une langue soit meilleure qu'une autre? L'arabe, le persan, le breton sont plus anciens. le japonais, le coréen, plus logique, donc plus facile à apprendre, le maori, le nahuatl, plus musicaux. S'il s'agissait du nombre, l'hindi et le mandarin se seraient imposés. S'il s'agissait de l'étendue des territoires, le russe ou le polynésien. La réalité est plus simple. Ces langues sont devenues ce qu'elles sont grâce aux empires coloniaux. Si l'anglais est devenu la première langue de communication et de commerce, il ne le doit pas à Shakespeare ni à Dickens, il le doit à l'Inde, à l'Afrique, à l'Australie et à ses colonies d'Amérique. De même, le français et l'espagnol ne doivent pas leur puissance à Cervantes ou à Molière, mais plutôt aux colons d'Amérique, aux plantations de canne et de coton, aux mines d'or, d'argent et de nickel, aux immenses populations ployées sous leur joug. Cette réalité déplaisante, il convient de la dire, non pour expier ou pour recouvrer une virginité, mais parce que sans elle, il ne saurait y avoir de justice ni d'équité. Les langues ne sont pas innocentes. Elles portent le poids de la violence, du racisme, des préjugés. Le français, comme l'a fait très justement observer l'écrivain haïtiano-québécois Danny Laferrière, langue menacée au Québec, est la langue de l'oppresseur en Haïti et dans d'autres territoires du monde. Après quelques hésitations, le français a accepté de signer la charte des langues régionales, mais il a oublié dans sa liste le créole, sans doute parce que cette langue est la seule qui lui résiste et donc le menace. Je ne fais pas mention de la puissance coloniale par goût de la polémique, c'est que ce système, inauguré par les grands voyages de découverte, est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Il est né de la violence, il s'est imposé au monde en lui imposant une uniformité de langue, de pensée et de religion. La question n'est pas de savoir s'il a été bon ou mauvais, encore que cette question-là soit facile à trancher si l'on met dans le plateau de la balance l'effroyable crime de la traite et le génocide des Amérindiens. La question est de savoir ce que l'on veut en faire aujourd'hui. En perdant très tôt son empire colonial des Amériques, la France a d'une certaine façon bénéficié d'un allègement moral qui a permis à sa langue d'acquérir une exemplarité. Pourtant, si la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un texte éclatant, sa portée a été ternie par la répression de Saint-Domingue, par le rétablissement de l'esclavage par le consul Bonaparte. La brillance extraordinaire de la pensée libertaire a été contredite siècle après siècle par la conquête de l'Algérie et de l'Afrique équatoriale, l'expropriation des indigènes, le décret Crémieux, la répression en Indochine, le bagne de Nouvelle-Calédonie et tous ces autres événements qui ont accompagné son histoire jusqu'au temps moderne, jusqu'à notre temps de ghetto et d'expulsion d'immigrés. Pourtant, aujourd'hui, le français garde la seule vraie part qu'elle a acquise dans le concert interculturel. Elle est une langue de culture, fondée non sur la puissance économique, mais sur un extraordinaire corps de littérature, de loi et de philosophie. Le français, c'est la langue de Christine de Pizan, qui parlait italien, de Rabelais, de Montaigne, de Montesquieu, de Rousseau, de Condorcet, d'Olympe de Gouges. C'est la langue de Descartes qui a écrit « Il se peut faire que je me trompe ». C'est la langue d'Alain qui a suggéré « Chercher l'épingle ». De Colette qui a parlé des enfants et des chats comme nulle autre personne. C'est la langue de Marie Bashkirtseff qui dit son amour de la vie. C'est la langue de Marcel Proust qui interroge le passé. C'est la langue de Henri Michaux qui invente une langue. De Claude Lévi-Strauss qui invente une sauvagerie de la pensée. Le français est beaucoup plus qu'une langue. C'est un lieu d'échange et de rencontre. Ses frontières se sont dissoutes dans la totalité du monde. Cela ne signifie pas un déracinement ni une vulnérabilité, mais au contraire une plus grande liberté, une audace et une résonance nouvelle. Par une sorte de justice immanente, ce sont ceux qui ont souffert de l'oppression, ce sont ceux qui aujourd'hui ressentent comme au Québec la menace de la mondialisation à l'anglaise, qui aujourd'hui sont les plus ardents défenseurs de notre langue. Ce sont les Africains, Sangor, Aminata Sofal, Henri Lopez, Sami Tchak, Alain Mabankou, Wilfried Sondé, Abourahmane Waberi. Ce sont ces autres Africains que sont Driss Schraibi, Tahar Ben Jeloun, Hubert Haddad ou Leila Sebar. Ce sont des Libanais tels que Amin Maalouf, Georges Cheadé, André Chédid, Vénus Kourigata. Antillais tels que Aimé Césaire, Édouard Glissant, Marie Scondé, Patrick Chamoiseau, Fabienne Canor. des Haïtiens tels que Métellus, Lionel Trouillot, Dany Laferrière, des Indiens océaniens tels que le Réunionnais Patrick Gauvin ou les Mauriciens Édouard Monique, Ananda Devi, Richard Sedley-Hasson. Ce sont des Pacifiques océaniens tels que la poétesse Kanak Dewey Gorodé, que les Français ont mis en prison, mais qui écrit en français. Ce sont d'autres tels que le Nivanuatu Marcel Metel-Rorong, ou bien sûr tous ces écrivains québécois qui se battent pour maintenir très fort la littérature et la langue française. Émile Nelligan, qui parlait du spasme de vivre. Gaston Miron, régent du charme, qui parle des dents de lait de l'âme. Yves Sioui-Durand, Rita Mestocochaux, qui fait parler les plantes et les animaux. Tous comme un choix, comme une passion. Ce sont eux qui, aujourd'hui, portent la langue française dans le monde, avec une foi et un enthousiasme qui ne sont pas toujours payés de retour par les intellectuels de France. Au même titre que l'exemple québécois, l'exemple mauricien apporte un démenti à tous ceux qui doutent de la nécessité et de la justesse du maintien de la langue française dans le monde. Il faudrait songer à remplacer un jour le mot barbare de francophonie par ceux plus doux d'amour de la langue française. Dans ce pays qui m'est très cher, je veux parler de la petite République de Maurice, indépendante depuis 1968, la langue française fut longtemps la langue de l'oppression. Esclaves capturés par les fameux frères Surcouf, vendus par la non moins célèbre Compagnie des Indes, atroce code noir, l'un des régimes les plus féroces et les plus obscurantistes qu'ait connu l'histoire humaine. Un esclave, il faut le rappeler, pouvait mourir sous le fouet pour avoir seulement tenté d'approcher un livre. Le français fut la langue des planteurs imposée à la masse des travailleurs engagés ou des prisonniers capturés au moment de la révolte des Cipayes, forcés à construire les routes qui sillonnent encore cette île. Ce fut la langue de ces poètes précieux qui discouraient des mérites respectifs de la mangue et de la banane à l'instant où, sur ordre du gouverneur britannique, l'esclave révolté Ratsitatan était décapité en public dans la ville de Port-Louis. Plus récemment, il fut la langue des riches sucriers capables, comme le raconte Barlène Payamoutou, de mettre du jour au lendemain toute la population de Bénarès au chômage sans aucune compensation, ou encore de raser sans sentiment au bulldozer la pauvre case d'une vieille servante devenue inutile. Et pourtant, Maurice a maintenu envers et contre tout l'usage de notre langue, sans subvention, sans aucune autre raison que l'amour que ses citoyens portent à sa culture et à la littérature française. Pour eux, le français ne rivalise pas avec l'anglais, la langue officielle, ni avec le créole, la langue maternelle. Cette langue leur est aussi nécessaire, aussi indispensable que la poésie, la musique et la danse. Elle leur est aussi vitale que leur propre identité. À Maurice, depuis plus d'une décennie, se réunit sous les auspices de la mairie du petit village de Rosil-Beaubassin, un jury littéraire pour célébrer la mémoire de l'enfant du pays, le poète Jean Fanchette, poète de l'exil. Ce prix récompense un manuscrit écrit dans l'île en langue française, un roman, un poème ou un essai. Le montant du prix sert exclusivement à la publication de l'œuvre à Maurice. J'en parle ici comme d'un acte touchant et exemplaire, mais je voudrais ajouter qu'il a permis l'édition et la diffusion de très bons auteurs tels que Shehnaz Patel pour son roman Portrait Chamarel, Damal Sutel pour Histoire d'Ashok et d'autres personnages de moindre importance, ainsi que le poète créole Richard Sedley-Hasson. Que dire de plus ? À notre époque, où les subventions de la France à l'enseignement et à la diffusion de notre belle langue commune se font de plus en plus maigres, un tel prix, un tel engagement ont la valeur d'un précieux symbole. Je parlais tout à l'heure de lieux d'échange. À notre époque de profit brutal et d'horreur économique, cette fraternité prend une signification plus particulière. L'Europe s'est faite non comme une ouverture, mais plutôt comme un repli, une fermeture au monde. Sous le prétexte de faire table rase du passé, l'on veut aujourd'hui ignorer la très grande responsabilité des pays européens dans la situation précaire que vivent les 9/10 de la population de la planète. On oublie que la prospérité de l'Occident, y compris des États-Unis d'Amérique et de l'Australie, s'est faite grâce au travail et à la sueur et au sang des pays conquis jadis. Sans doute est-il plus que temps d'ouvrir les yeux, les frontières et les cœurs. Cet amour de la langue française que tant de peuples différents partagent est une grande chance, un devoir et une nécessité. Il ne suffit pas de proclamer ses intentions, ni de reconnaître la dette. Il faut aussi que le lieu d'échange soit celui des responsabilités mutuelles, que les hommes puissent voyager aussi bien que les idées, et que les idées trouvent les moyens de se faire connaître malgré les obstacles des disparités économiques. En d'autres termes, il faut que l'amour de la langue française soit aussi l'amour de ceux qui la parlent, que la diffusion des livres, l'aide aux coéditions, le financement des bibliothèques circulaires et aussi le soutien aux langues dites minoritaires fassent de notre langue un vrai terrain de rencontre. Je ne parle pas là d'une œuvre charitable dont l'exercice serait injurieux, mais d'un devoir, ou plutôt d'une absolue nécessité, afin d'accroître le précieux trésor de la culture plurielle et dans toutes ses différences, seul gage de la durée de notre espèce. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Jean-Marie Le Clézio, pour cet exposé qui nous rappelle d'une part au fait que le lien de la littérature et de la langue est essentiel. Vous avez dit que le destin de la langue française est aujourd'hui lié de manière absolument substantielle au trésor de la littérature. Et d'autre part, vous avez conclu votre exposé par l'énoncé d'un devoir, une injonction en fait à l'ouverture de nos cœurs et nos esprits. Et je crois que ce devoir ici est bien entendu. Alors, vous avez accepté de répondre à quelques questions. Il y a deux microphones. Ceux qui voudraient donc s'avancer, tout simplement, les microphones sont là pour vous. Peut-être pour amorcer le débat, je voudrais vous poser moi-même une question qui est un peu souterraine dans l'exposé que vous avez donné. Vous avez parlé de la disparition des langues. Il y a bien sûr la question très grave de la disparition des langues sans littérature, de toutes ces langues que les linguistes recensent comme des espèces en voie de disparition ou tout simplement comme des plantes qui sont là pour disparaître. Alors, quel peut être le destin d'une langue aujourd'hui qui est détruite par la mondialisation quand elle n'a pas la littérature pour se maintenir? Ce serait peut-être une question à laquelle vous aimeriez répondre.
Oui, certainement. J'ai un peu de mal avec cette notion de langue sans littérature, parce que je ne crois pas que ça existe. Que la littérature n'est pas seulement ce qui est écrit, c'est aussi, une sagesse, une connaissance ancienne. Je veux dire que la littérature française ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu aussi des conteurs, des légendes, des mythes qui étaient véhiculés sur le sol de la France, puis ensuite sur le sol de tous les territoires où cette langue a été parlée. On a dit aussi du breton, ça ne peut pas être une langue. C'est une langue, ça ne peut pas être une véritable langue parce qu'il n'y a pas de littérature. C'est vrai qu'il y a peu d'écrivains dans la langue bretonne, mais on sait, tout le monde sait que la mythologie et la richesse des contes et l'envergure des conteurs en Bretagne était quelque chose de stupéfiant que justement la modernité a beaucoup affaibli et a fait disparaître. Mais la notion de langue sans littérature, je crois que c'est comme une notion de peuple sans histoire. Je crois que ça n'existe pas. Je crois que c'est une invention, que toutes les langues et tous les peuples, toutes les identités, non seulement ethniques mais culturelles, ont cette charge, qui est au fond l'explication de leur existence. S'il n'y avait pas cela, il n'y aurait pas de possibilité d'existence. Je crois que le premier rôle de la langue, ce n'est pas uniquement la communication, c'est aussi inventer une autre dimension, et une dimension qui est en dehors du réel et qui sert à d'ossature au-delà des générations. Les générations humaines sont très courtes. C'est, à une époque, les générations, c'était 25-30 ans. Et donc, pour maintenir le flux de la langue. Il fallait autre chose, il fallait quelque chose qui aille au-delà des générations. Et j'ajouterais que même il fallait d'une certaine façon parler la langue des animaux, parler la langue de la nature et des animaux. Sans cette référence-là, l'être humain est seul et nu, il n'a pas de vérité. Donc je crois que... Enfin, moi, je ne donnerai pas du tout d'approbation à cette notion de langue sans littérature.
Mais ces sociétés qui sont fondées sur un trésor oral résistent moins que celles qui ont l'écriture.
Ben, écoutez, moi, la plus grande émotion que j'ai eue, c'était quand j'étais dans la forêt à Panama, et il y avait une femme qui était connue pour son art de compter. Et elle avait un public, et je veux dire, quand elle arrivait, c'était important. Elle racontait des légendes, des mythes, en les accompagnant de chants, et sur un rythme très musical. Et on n'avait pas du tout l'impression que c'était quelque chose qui était en danger. On avait l'impression qu'elle portait une charge très forte et très importante. Alors c'est vrai que la société moderne a remplacé cela par quelque chose d'autre, qui est un recours à un imaginaire beaucoup plus individualiste. Mais elle-même, je la considère comme une romancière, parce que les mythes, les contes qu'elle racontait en public, elle y apportait beaucoup d'elle-même, elle y insérait des éléments de sa propre vie. C'était une femme qui avait une vie assez compliquée et elle illustrait ses contes au moyen de sa propre vie. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un danger dans la littérature, que la littérature orale soit véritablement en danger. Je crois que simplement que le monde moderne a beaucoup plus de mal à l'écouter, mais le besoin est le même, il reste identique.
On aura peut-être une question. La salle est impressionnée. Oui, venez peut-être au micro si vous voulez ou parler très fort. Descendez, venez.
J'aimerais savoir si Monsieur Leclésio peut bien comprendre Michel Tremblay.
Oui.
Si la lecture est facile ou...
Oui, c'est vrai que la littérature québécoise a cette particularité qui, je ne dirais pas qu'il la rend difficile à comprendre, mais il y a des références qui sont difficiles à suivre si l'on n'est pas au courant vraiment de ce dont il est question. Mais Tremblay, oui, mais moi j'aime la littérature québécoise, je lis beaucoup de la littérature québécoise, et il a été fait mention récemment de Ducharme, mais c'est vrai que Ducharme est un écrivain profondément québécois, même montréalais, c'est quelqu'un qui parle de la ville de Montréal, des quartiers où il marche, et quand on ne connaît pas ces quartiers, on a un peu de mal, mais tout de même, il y a quelque chose d'universel qui, je crois, circule.
J'avoue que je ne suis pas de la région de Montréal. Alors, mes références avec Michel Tremblay, pour moi, ça a été difficile.
Oui, oui.
Alors, je vous posais la question.
Vous êtes de quelle région ?
Le bas du fleuve.
Pardon ?
Le bas du fleuve.
Le bas du fleuve.
Rivière-du-Loup.
Quand on dit bas du fleuve, c'est vers...
En bas, plus bas qu'à Québec.
Ah, plus bas
100 kilomètres.
C'est la
Québec.
Gaspésie ?
Non.
Non.
Et non, c'est le bas du fleuve.
Entre les deux.
Et c'est l'eau salée.
Entre les deux.
C'est l'eau salée, les marées.
Ah oui.
C'est comme la mer pour nous. Merci.
Merci.
Quelqu'un d'autre? Venez, monsieur, venez.
Ah, bonjour, monsieur Leclésio. C'est Oumar Sankaré, professeur de littérature à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Ma question porte sur le statut de la langue, car on sait que le français est une langue plurielle. Et nous autres enseignants, nous avons des difficultés pour dire à nos étudiants, à nos élèves, quelle langue il faut employer dans leurs travaux scolaires, académiques. Est-ce que nous devons employer la langue que parle Jean-Marie Le Clézio, ou bien est-ce que nous devons accepter la langue que parlent nos écrivains, qui est un français qui s'écarte de la norme française. Je vous remercie.
Oui, merci de cette question. C'est vrai que ma formation littéraire est très classique. J'ai fait mes études dans un lycée français. Et à l'époque où j'étudiais dans les lycées en France, on ne faisait pratiquement aucune part au particularisme de la langue française. C'est-à-dire qu'on considérait qu'il y avait la langue française qui était une sorte de fantôme. On ne savait pas exactement ce que ça pouvait être. Et que les autres étaient des régionalismes. Et donc, je ne parle pas seulement de la langue du français parlé par les Africains, mais aussi du français parlé par les Occitans, par exemple. Jean Giono était considéré comme un écrivain régionaliste. Il était dans la rubrique des écrivains régionalistes. Et je ne parle pas du français parlé en Suisse ou du français parlé effectivement au Québec. Je ne crois pas qu'il y ait d'ailleurs une seule mention de la littérature québécoise dans les manuels de littérature française qu'on avait à l'époque au lycée, qui étaient Castex et Surer ou La Garde et Michard. Je ne me souviens pas du tout d'avoir vu quoi que ce soit concernant ces particularismes. Aujourd'hui, on découvre que ce ne sont pas des particularismes, que la langue française est la somme de particularismes. Elle est la somme de ce français établi avec beaucoup de difficultés sur les ruines de l'Empire romain, et ce français qui a été un peu la langue de l'armée, la langue de la force. Je rappelle que les Francs se sont imposés par la force et d'aucune autre manière. Et donc, aujourd'hui, on s'aperçoit que le français est pluriel, qu'il est multiforme. Donc, pour répondre à la question de M. Omar, je lui dirais que il n'y a aucun doute qu'il faut enseigner le français écrit par les écrivains africains au même titre que le français écrit par les écrivains parisiens. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ils ont droit tout autant à figurer dans les anthologies. Et j'attends les nouvelles anthologies, donc.
Pierre Neveu.
Oui, alors... Depuis une trentaine d'années, on commence à parler d'une littérature autochtone au Québec. Je sais que c'est une question qui vous intéresse. Il y a un problème linguistique là-dedans, c'est sûr, dans la mesure où les langues, par exemple, Innu, Cri, sont parlées par un très petit nombre de personnes et que donc ces écrivains peuvent difficilement écrire dans leur propre langue, le public est trop restreint, donc ils doivent écrire en français. En même temps, jusqu'ici, c'est la reconnaissance de cette littérature-là, malgré quelques noms connus que vous avez cités, Rista Mosokocho, Yves Sioui Durand, quelques autres, cette reconnaissance-là est quand même assez limitée. J'aimerais savoir comment vous voyez la situation des littératures autochtones et aussi plus largement peut-être des peuples autochtones au Québec.
Oui, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question et je vais donner simplement un avis qui vaut celui de n'importe qui. C'est vrai que la situation au Québec des langues minoritaires est très difficile. Ça, c'est un fait. On n'en parle pas assez. On ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer. C'est très difficile d'être édité quand on écrit dans une des langues minoritaires du Québec. Je dis langue minoritaire, mais il y en a d'autres que les langues des autochtones. Il y a aussi d'autres langues. Mais enfin, ces langues des autochtones, c'est vrai que c'est un problème fondamental du Québec parce que, je veux dire que dans l'histoire de ce pays, ces peuples ont une place tout à fait exceptionnelle, tout à fait importante. Après tout, cette terre était la leur et aujourd'hui ils doivent la partager. C'est bien de partager aussi, c'est une bonne chose de partager, mais quand on est en infériorité et que numérique et que d'autre part les divisions sont telles qu'on ne peut pas se rencontrer, qu'on n'a pas de cohésion, c'est vraiment très difficile et je conçois vraiment à quel point ça peut être dramatique. Mais d'un autre côté, il faut voir aussi que la langue française est une belle langue pour la traduction. Donc, pourquoi ne pas publier des textes bilingues? Ce serait ça ma requête. Ce n'est pas publier les langues autochtones qui ne vont être lues que par 15 ou 16 000 personnes, mais publier des textes bilingues de façon à ce que chacun s'accoutume au son de la langue. C'est déjà beaucoup d'entendre le son de la langue. Je vais vous livrer une toute petite expérience. J'ai enseigné un cours de poésie à Séoul, en Corée du Sud. Et à la fin du cours, après avoir parlé des grands poètes classiques de la langue française, j'ai tenu à présenter les poètes contemporains. Et j'avais inclus donc dans ce cours la lecture et l'écoute des poèmes de la poétesse Inu Rita Mestokosho, qui vit à Mingan. Et c'était possible parce qu'elle a un site sur Internet, ce qui prouve que la modernité est quand même quelque chose de bien. La mondialisation, comme on dit, n'est pas seulement négative. Et donc, ces étudiants et ces étudiantes ont entendu la langue Innu, et elles ont été, ces étudiants ont été tout à fait séduits, vraiment troublés par cette langue. Les commentaires, c'était, on dirait un peu du coréen. Mais la sonorité de la langue. Et donc, il y avait le texte en français. Les étudiants et les étudiantes parlaient parfaitement le français. Et le texte en français était là pour la compréhension. Mais le son de la langue Innu était là pour une autre forme de perception, plus fine, plus instinctive ou plus musicale, je ne sais. Et donc, c'est très important d'avoir ces éditions bilingues. Je crois que c'est très important de connaître les sons de ces langues qui n'ont pas été assez entendus et qui, je crois, font partie, véritablement partie de l'histoire de ce pays, de cette province.
Monsieur ?
Vous avez dit, Jean-Marie, que l'histoire des langues était une histoire liée à la violence. On vient d'apprendre que le Rwanda vient d'abandonner le français comme langue officielle et langue de culture et langue d'enseignement au profit de l'anglais. Est-ce que c'est un signe révoltant ?
Je ne crois pas que le choix entre deux langues dans cette situation puisse être révoltant. Ce qui est révoltant, c'est la guerre, c'est la situation tragique de la population. Après ça, les messages politiques que l'on peut envoyer, ça a très peu de sens. La vérité, c'est la situation tragique. Je rappelle que l'Algérie est un pays où la langue française est largement pratiquée, mais qui n'appartient pas à l'Organisation internationale de la francophonie, parce que l'héritage est trop lourd à porter. Et je rappelle que très récemment, la France a refusé, encore une fois, de présenter simplement des excuses pour la conduite qui a été la sienne pendant la guerre d'Algérie. Ce n'était rien, c'était juste un mot de compassion qu'on attendait de la part de la France, et la France a dit, par la parole de notre président de la République française, a dit « Oui, mais je n'étais pas né à cette époque, ou je n'ai pas participé à cette époque ». C'est terrible de dire une chose comme celle-là. Je pense que c'est le devoir impérieux de la France de reconnaître ses erreurs, et à partir de là, on peut oublier, on peut pardonner, pas oublier, mais pardonner, on peut aller au-delà. Mais il faut d'abord reconnaître les erreurs. Et ce que je dis là de la France est vrai pour l'Angleterre, est vrai pour beaucoup de nations. Et c'est un premier pas. Il faut ce pas de sympathie et ce pas de reconnaissance pour qu'ensuite on puisse passer à autre chose. La question s'est posée aussi pour la traite. Et ça a été l'objet d'une polémique que je trouve honteuse. Parce qu'il faut reconnaître le génocide qu'a été la traite. Une fois que c'est reconnu et que les pays ont fait, non pas amende honorable, mais ont reconnu cette part de leur histoire, que ça figure dans les manuels, on peut passer à la phase suivante, qui est la phase de réconciliation. Donc j'espère que pour le Rwanda, que ce soit la langue française ou la langue anglaise, on passera à la phase suivante. Mais ce qui est tragique pour l'instant, ce n'est pas le choix de telle ou telle langue, c'est la situation terrible dans laquelle se trouve la population.
Allez-y, monsieur.
Oui, alors, je voudrais rendre hommage, un hommage du fond du cœur à Jean-Marie Le Clézio. Je suis de l'île Maurice. Et au moment où le sommet de la francophonie se tient en ce même moment à Québec. Nous sommes ici à Montréal et grâce à l'Académie des lettres du Québec, grâce à Lise Gauvin et tous les membres de l'Académie. Je crois que c'est un autre sommet qui se tient ici, un sommet où, dans l'assistance, nous avons non seulement des gens du pays, nous avons aussi des gens du monde qui sont là. Il y a le Brésil, il y a l'île Maurice, il y a des échantillons humains du monde qui sont ici. Je dis que c'est un autre sommet dans le sens que la voix que vous avez, vous incarnez la conscience. Quand on parle de la mondialisation, il y a aussi une mondialisation profonde. Les peuples se rencontrent, les cultures se rencontrent et leurs voix ne s'entendent pas souvent, mais c'est là le rôle des écrivains, des poètes, c'est d'incarner cette conscience bafouée parfois, silencieuse, étouffée. Et vous l'avez si admirablement exprimé. Et quand je vous entendais, en même temps je vous écoutais, vous avez fait référence à plusieurs reprises à ce jeune poète mauricien, Richard Sedley-Hasson, et qui a écrit un petit texte, un poème qui s'appelle « Le morne territoire marron ». Et cette voix du poète a fait qu'aujourd'hui, le morne est devenu un symbole de la résistance contre ce système inhumain qui est l'esclavage. Et le morne, aujourd'hui, est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est en tenant compte de tout cela que je me dis, votre voix, c'est l'incarnation de toute cette conscience mondiale. C'est ça que la mondialisation, il ne faut pas... C'est à la fois ce que nous voyons en termes de violence, en termes de domination, en termes d'oppression, mais il y a aussi la mondialisation profonde où les peuples, les individus se rencontrent et les écrivains comme vous, les écrivains sont les porte-paroles, la parole et la conscience de cette mondialisation-là. Et pour cela, je vous dis merci beaucoup. Merci.
Alors, une dernière question.
Oui, ma question se rapporte à la langue créole. Vous avez mentionné qu'il y a beaucoup de langues qui se sont intégrées, mais le créole constitue une menace pour le français. Vous n'êtes pas sans savoir que le créole prend de plus en plus d'ampleur. Maintenant, nous sommes au mois d'octobre. Le mois d'octobre est consacré à la langue créole. Ici, même à Montréal, il y a des grandes manifestations qui se font par rapport à cette langue. Et il y a des écrivains haïtiens qui écrivent en français, qui écrivent en créole. Et Haïti est constitué comme un pays francophone. En quoi le créole serait-il une menace contre le français?
Oui. Bonne question. Ouais. Oui. Non, je voulais mentionner la très grande difficulté que les langues régionales ont eue en France à être entendues. J'ai parlé du créole, il fallait parler du breton, qui est la langue de mes lointains ancêtres avant qu'ils n'aillent à l'île Maurice, et ils parlaient en breton. Et cette langue a aujourd'hui pratiquement disparu, mais on l'inscrit dans la charte des langues. En revanche, on ne mentionne pas le créole, qui est la langue la plus parlée, la langue régionale, on va dire, la plus parlée des territoires français. Je veux dire par là, je ne parle pas d'Haïti, mais je parle de Guadeloupe, Martinique, Réunion. Et je me demandais pourquoi cet oubli. Je pense qu'il a été réparé depuis, mais enfin, le premier texte de la charte avait oublié le créole. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de créole en France, on a un peu l'impression que les gens entendent patois. Ils entendent une sorte de jargon qui aurait été un peu le langage des serviteurs et quelque chose de dépréciatif dedans. C'est très récent que l'on considère le créole pour ce qu'il est, c'est-à-dire la dernière langue indo-européenne apparue sur cette planète. Et on ne sait toujours pas l'origine du créole, mais on a tout lieu de penser que c'est une langue dont l'origine est profondément liée à la traite et vraiment est une langue qui est née, spontanément ça ne veut rien dire, mais qui est née par nécessité, par obligation, non pas par une obligation verticale, c'est-à-dire imposée par les maîtres sur les serviteurs, mais horizontale pour que les serviteurs, les gens raflés, puissent communiquer entre eux. Ils avaient besoin de cette langue et ils ont créé cette langue. Glissant dit « né dans le ventre des bateaux ». Et je pense que c'est vrai. Mais bon, on a aucune certitude et on n'aura jamais aucune certitude là-dessus. C'est un mystère, comme je crois toutes les langues. Il y a une origine mystérieuse, presque mythique dans cette langue. Et pour moi, c'est la langue, non pas maternelle, puisque je suis né en France, mais c'est la langue que me parlait mon grand-père. Quand il se mettait en colère, il parlait en créole. Quand il, au contraire, il voulait chanter quelque chose de doux à ses petits-enfants, c'était en créole. C'était sa langue. Et j'ai regretté de ne pas naître dans cette langue, parce que je crois que, effectivement, comme a dit Omar, j'aurais peut-être écrit d'une autre façon. Si j'étais né dans cette langue, ça se serait entendu. Mais on ne choisit pas son lieu de naissance, ni au fond la langue qui vous berce au premier moment de la vie. Mais je crois que c'est une langue très importante qui a, en effet, comme vous le dites, de plus en plus d'importance, non pas parce qu'elle lutte contre le français, je ne pense pas qu'elle soit en lutte contre le français, mais parce qu'elle accompagne la langue française. Si le français est encore parlé à l'île Maurice, et j'imagine que c'est le cas aussi en Haïti, c'est grâce au créole. C'est le créole qui a porté cette langue, et non l'inverse. Et j'entends rarement les Français remercier le créole de ce que le créole a fait pour cette langue, pour la langue française. Donc je veux rendre hommage au créole comme une langue qui non seulement développe sa propre texture et son propre imaginaire, mais qui aussi nourrit la langue française, lui apporte de nouvelles images, de nouveaux modes, un nouvel accent, une nouvelle dimension. Donc merci au créole.
Alors, Monsieur Le Clézot, au nom de tous, j'ai l'agréable tâche de vous remercier. On était tous très heureux de pouvoir vous écouter ce matin. Nous savons que vous devez partir. D'autres obligations vous attendent. Et donc, merci encore une fois du fond du cœur d'être venu ici.